Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
En matière d'archéologie, on peut résoudre des énigmes 2000 ans après. Ce sont donc des technologies d'ADN qui permettent d'établir des corrélations en différents prélèvements pour élucider l'énigme de l'assassinat du petit Grégory.
Affaire Grégory, 36 ans après l'enquête relancée, la justice accède aux demandes de la famille Villemain pour de nouvelles expertises ADN. Des escrocs vaccins dans le nord de la France, des inconnus qui appellent des personnes âgées pour leur proposer de les vacciner à domicile. En réalité, une ruse pour les cambrioler. La France est passée à côté d'un vaccin français. Une start-up nantaise a réussi à vendre son produit à la Grande-Bretagne. Napoléon raconte Austerlitz, manuscrit exceptionnel, mis en vente aujourd'hui. Le Vendée Globe, d'Alain va couper la ligne en premier vers 19h, mais sans certitude de gagner la course à cause des bonifications de ses poursuivants à ses trousses. Invité d'Europe Midi, Isabelle Debray, présidente de l'association L'Enfant Bleu, qui milite pour la notion de crime contre l'enfance. Elle l'a demandé au garde des Sceaux.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un tournant qui pourrait être crucial, mais soyons prudents sur cette enquête vieille de 36 ans et qui a connu tant de rebondissements. La justice, la cour d'appel de Dijon vient d'autoriser de nouvelles expertises génétiques dans l'espoir d'élucider enfin l'assassinat de Grégory Villemain. Car pour ses parents, tout n'a pas encore été tenté. Arthur Mbaché, il est question cette fois de rechercher l'ADN, les empreintes génétiques de parentèle.
Oui, une technique assez récente qui permet, disons, de ratisser plus large quand on compare les ADN, de trouver des proches de ceux dont l'ADN a été prélevé. Et donc, on va comparer avec les anciennes traces qui sont dans le dossier depuis longtemps, celles laissées notamment sur le pantalon, le pullover, l'anorak que portait Grégory le 16 octobre 84. L'avocat de Christine et Jean-Marie Villemain, François Saint-Pierre.
Vous savez, en matière d'archéologie, on peut résoudre des énigmes 2000 ans après. Dans les cold case criminels, dans les anciennes affaires criminelles, c'est la même chose. Ce sont donc des technologies d'ADN qui permettent d'établir des corrélations en différents prélèvements. Je ne rentre pas dans le détail scientifique qui est trop complexe pour moi. Moi, je vois que la justice reste déterminée pour que tout soit fait pour élucider l'énigme de l'assassinat du petit Grégory.
Parmi les mises en cause les plus récents, il y a le couple Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de Grégory. Frédéric Bernat est l'avocat de Jacqueline Jacob.
Dans ce dossier, c'est naufrage sur naufrage sur naufrage. C'est emballement sur suremballement sur suremballement à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent, extrêmement mesuré. Les Jacob ne souhaitent qu'une chose, c'est que la vérité puisse être révélée puisqu'ils sont très à l'aise avec celle-ci.
Les techniques scientifiques d'enquête pour élucider cette affaire, c'est ce que souhaitent donc les parents de Grégory. L'autre façon, Patrick, de démêler ce dossier, ce serait la libération de la parole. En tout cas, c'est ce que pense le nouveau procureur de Dijon qui disait récemment « Il y a des gens qui savent et qui se taisent ».
Arthur Mbaché, merci. Énième conseil de défense ce matin à l'Élysée. Pas de décision attendue. Emmanuel Macron se donne jusqu'au week-end pour avoir le recul de 15 jours sur l'effet du couvre-feu généralisé et surtout la dernière mesure de la propagation en France du variant anglais plus contagieux. Enquête réalisée aujourd'hui par Santé publique France et dont les résultats seront connus vendredi ou samedi. Sur le front de la vaccination, le compteur affiche près de 1 200 000 injections, mais gare aux arnaques à Oudin, près de Béthune. Mise en garde de la mairie, des escrocs appellent des personnes âgées pour leur proposer une vaccination à domicile. Lionel Gougelot.
Oui, effectivement. En fait, vous savez, Patrick, ici, les escrocs ont tenté tout simplement d'inventer une nouvelle forme de vol par ruse à domicile, prendre rendez-vous chez des personnes âgées en leur promettant un vaccin. Et Isabelle Levent, la maire d'Oudin, a recueilli des témoignages d'habitants contactés par téléphone par des interlocuteurs en apparence très sérieux et officiels.
La première réaction des personnes, c'est « Ah ben, on est content, on va être vaccinés ». Eh ben oui. Et puis la deuxième réaction, ça a été « Mais c'est quand même bizarre ». Et donc, les personnes ont eu le bon réflexe d'appeler soit leur commune, soit leur médecin pour leur demander des renseignements. Et on dit tout de suite « Non, non, c'est pas possible, faut pas faire comme ça ».
Alors heureusement, pour l'heure, il n'y a pas eu de victime officiellement recensée. Mais l'élu craint que les voleurs profitent en fait de la crédulité de personnes âgées fragiles et de leur aspiration à être vaccinées.
Accepter une vaccination à domicile, je pense que c'est aussi de l'espoir. Mais il y a aussi cette idée de reprendre ses petits-enfants dans les bras, et ça je l'entends beaucoup. Et les escrocs, malheureusement, surfent sur cette idée de détresse. Et l'idée de prendre rendez-vous chez les personnes âgées pour faire le vaccin, c'est un gros risque pour les personnes âgées. Il faut rester vigilant. Et surtout ne pas donner de rendez-vous ni d'adresse.
Un message actuellement largement relayé par les réseaux sociaux de la mairie d'Oudin et dans toutes les communes alentours.
Lionel Gougelot à Oudin, près de Béthune. Pour ce qui est des vrais vaccins, on a beaucoup glosé sur le fiasco français, l'abandon de Pasteur, le retard de Sanofi, en perdant de vue les start-up et la capacité des petits à dépasser les grands dans le domaine de la biotechnologie. C'est ainsi qu'une entreprise nantaise, Valneva, a annoncé la mise au point d'un vaccin. Il sera disponible à l'automne, mais en priorité au Royaume-Uni, qui a déjà passé commande. Expliquez-nous, Victor Delande, et d'abord pourquoi ce sérum français est passé sous le radar.
Alors d'abord, il faut savoir que plus de 200 entreprises dans le monde se sont lancées au printemps dernier dans la course à la vaccination. On n'a donc parlé que des leaders, ceux à même de livrer des flacons dès le début de cette année. Et puis il y a une sélection naturelle entre ceux qui abandonnent en cours de route et ceux qui restent. La société Valneva, toujours en course, espère des premiers vaccins à l'automne prochain. Mais pour le Royaume-Uni, pas si absurde puisque les essais cliniques ont été financés entièrement par les Britanniques. Un vaccin qui, comme l'explique Franck Grimaud, directeur général de Valneva, utilise une technique bien particulière.
Vous prenez un virus, vous l'inactivez, vous gardez sa surface intacte pour générer un nombre d'anticorps important et le plus varié possible. Et puis, nous avons ajouté un adjuvant pour améliorer encore l'efficacité et surtout la durée de protection.
Un vaccin plus facile à conserver et qui pourra s'adapter aux nouveaux variants en quelques mois à peine. Un seul bémol toutefois, il faudra attendre encore quelques mois et la fin des essais cliniques pour valider l'efficacité de ce vaccin.
Victor Delande, au Royaume-Uni, plus de 100 000 morts du Covid. Dirigeant du premier pays d'Europe à franchir ce seuil, Boris Johnson s'est dit profondément désolé pour les vies perdues en affirmant qu'il avait fait tout son possible pour éviter ce bilan. C'est faux, lui répond l'Association britannique des victimes du Covid qui réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie. Reportage à Londres, Anaïs Cordoba.
Tony Brown, 65 ans, est mort du Covid le 29 mars dernier. À un mois de la retraite, en parfaite santé, il est tombé malade après un déplacement professionnel mi-mars, alors que le gouvernement hésitait encore à confiner. Pour son fils Jamie, membre de l'association des 2300 familles de victimes du Covid, le gouvernement de Boris Johnson est responsable en grande partie du terrible bilan de l'épidémie au Royaume-Uni.
Lors de la première vague, nous étions 15 jours derrière les autres pays d'Europe. Nous avions le temps de voir ce qui se passer ailleurs et d'agir. Mais on ne l'a pas fait. Boris Johnson a attendu pour confiner, contre l'avis de ses propres experts qui lui ont fourni toutes les preuves nécessaires. Nous avons aussi souffert d'une pénurie d'équipements médicaux de protection alors que le gouvernement a refusé de participer au programme européen d'achat de ces équipements. Et puis plus de 20 000 patients d'hôpitaux ont été transférés vers des maisons de retraite sans être testés pour le coronavirus. C'était une décision du gouvernement et ça a mené à des dizaines de milliers de morts dans les maisons de retraite.
Boris Johnson a rejeté les nombreuses demandes de rencontres avec cette association et refuse pour l'instant toute enquête sur l'action du gouvernement. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Aux Pays-Bas, retour au calme après trois soirées d'émeutes contre le couvre-feu. Une forte présence policière à Amsterdam, Rotterdam et La Haye a empêché de nouveaux troubles. Le chômage en baisse au quatrième trimestre 2020, baisse de 2,7% du nombre de demandeurs d'emploi qui n'exercent aucune activité. Ce nombre s'établit à 3 816 000 personnes. C'est le deuxième trimestre consécutif de baisse. L'activité partielle explique pour une grande part cette tendance. Elle a pour effet de maintenir dans l'emploi les salariés des secteurs durement frappés par la crise qui sans cesse seraient venus grossir le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, m'explique Olivier Samin. À noter aussi que dans le secteur de la restauration, Flunch vient de demander à être placé sous procédure de sauvegarde.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite, la mise en vente d'un passionnant manuscrit de Napoléon, l'arrivée au finish du Vendée Globe, et puis nous reviendrons sur la question des visites aux malades du Covid à l'hôpital, après le témoignage de Stéphanie Bataille.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Vous avez été nombreux à réagir au témoignage de Stéphanie Bataille. La comédienne invitée d'Europe Midi hier disait sa colère d'avoir perdu son père à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mort du Covid et mort désespéré que ses enfants ne puissent pas l'approcher pendant plusieurs jours. Anne Le Gall, quelles sont normalement les règles en vigueur aujourd'hui pour les visites de malades du Covid ?
Alors déjà, globalement, les familles ont le droit de visiter leurs proches à l'hôpital, y compris en réanimation. Évidemment, tout ceci se décide avec l'équipe soignante et des règles parfois propres à chaque établissement. Dans le protocole des hôpitaux de Paris, par exemple, les visites ont lieu dans des créneaux horaires décidés par l'équipe médicale et en cas d'apparition de cas de Covid dans un service. Ces visites peuvent être suspendues, sauf dans les situations de fin de vie ou de détresse psychologique du patient. Nous ne sommes donc plus du tout dans la situation d'il y a un an, explique le professeur Djilalil Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré de Garches. Il y a un an, les visites étaient interdites à tous les membres de la famille.
On sait maintenant que cela a été une erreur. Et donc, aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs mois, les visites sont autorisées, bien évidemment, voire même encouragées dans mon service. Car on sait que ces visites des familles à leurs proches hospitalisés en réanimation sont importantes à la fois pour les familles et à la fois pour le patient.
Et en cas de décès d'un patient atteint de Covid, là aussi les choses évoluent. Désormais, la présentation du défunt à la famille est possible sur le lieu où le décès est survenu. C'est ce qui ressort d'un décret paru la semaine dernière.
Merci Anne Le Gall, c'est très important. Et à présent, deux siècles après sa mort, Napoléon qui écrit encore sa légende. C'est un manuscrit de 74 pages dicté par l'empereur et corrigé de sa main, un document unique qui est mis en vente aujourd'hui, le récit forcément héroïque de la bataille d'Austerlitz lors d'Autriche.
Oui, un manuscrit mis en vente pour 1 million d'euros, rédigé par l'un des fidèles de l'empereur, le général Bertrand, et annoté par Napoléon, 70 pages dans lesquelles il a barré des mots à l'encre noire ou inscrit des remarques dans la marge avec une écriture minuscule. Il raconte la légendaire bataille d'Austerlitz de 1805 dans un récit un peu enjolivé, mais c'est tout de même la plus grande victoire de sa vie, une bataille si réussie qu'on l'enseigne encore aujourd'hui dans les écoles militaires comme à Saint-Cyr. Napoléon, toujours empereur dans l'âme malgré l'exil, parle de lui à la troisième personne, détaille Alice Hérault, la co-directrice de la galerie Art et Autographe.
Il l'écrit lui-même, l'empereur dit, l'empereur fait. Il y a beaucoup de documents qui sont rentrés dans les archives, dans des institutions. Il y a de moins en moins de choses qui sont en main privée. Et Napoléon, ça reste une légende à travers le monde.
Si vous êtes à Paris, vous pouvez voir ce manuscrit jusqu'à samedi dans la galerie Art et Autographe. Et vous verrez aussi que Napoléon utilise encore à l'époque le calendrier révolutionnaire. Il parle en brumaire, en frimaire, alors que cela fait à l'époque une quinzaine d'années qu'on n'utilise plus ce calendrier.
Lors d'Autriche, 80 jours de tour du monde et une arrivée devant des globes qui va peut-être se jouer sur une poignée de minutes. Une certitude, Charlie Dalin va couper la ligne en premier au Sable d'Olonne entre 19 et 20 heures, mais il ne sera pas forcément le vainqueur de la course, Corinne Boulou.
Oui, c'est effectivement le scénario qui se profile. Charlie Dalin est au dernier pointage à environ 200 km des Sables d'Olonne. Il progresse dans le golfe de Gascogne à vive allure. Ses poursuivants ne sont pas en reste. Yannick Bestaven en cinquième position est à 300 km dans son nord-ouest. Louis Burton, l'allemand Boris Herrmann et Thomas Ruyan sont intercalés. Dalin est attendu probablement vers 20h hein, sur la ligne. Yannick Bestaven 7 à 8 heures plus tard probablement avec le jeu des bonifications accordées à Herrmann et Bestaven pour le sauvetage de Kevin Escoffier le 30 novembre dernier. Nous pourrions donc avoir un premier sur la ligne d'Alain et un vainqueur déclaré, Bestaven. Alors, il en est un qui est arrivé au sable pour les saluer. C'est Kevin Escoffier, arbitre bien involontaire de cette arrivée à la calculette. Nous venons de le rencontrer.
J'en suis la cause, bien malgré moi. Je préférerais être en train de me battre pour la plus belle des places possibles sur cette arrivée du Vendée Globe avec mes petits copains plutôt que de regarder ça depuis la plage. C'est comme ça, il faut régater avec. Je comprends qu'il puisse y avoir de la frustration parce que moi, le premier, je préférerais voir une arrivée où le premier qui passe la ligne gagne, le deuxième fait deuxième et le troisième est sur la troisième marche du podium.
Donc patience encore jusqu'à la nuit prochaine. Kevin Escoffier est là aussi pour remercier bien évidemment ses sauveteurs, hein, notamment Jean Lecam, qu'il avait récupéré sur son radeau de survie dans les 40e rugissants de l'océan Indien. Jean Lecam attendu, lui, demain soir, ici, au Sable d'Olonne.
Merci à vous, Corinne Boulou. Le temps, Anissa l'a dit, temps maussade avec risque d'avalanche.
Oui, nous avons 4 départements, Patrick. Les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie placés en vigilance orange avalanche jusqu'à au moins vendredi minuit. La neige est de retour en abondance sur les Alpes et avec le redoux important surtout demain. Et bien voilà, les avalanches sont là. Cet après-midi, le temps est gris sur quasiment tout le pays, sauf le golfe du Lion. La Provence et la Corse auront droit au soleil. Pour la façade atlantique et notamment les Sables d'Olonne où se trouve Corinne Boulou, c'est de la pluie toute la journée, hein, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. Les températures, elles sont plus douces cet après-midi. 5 à Metz, 8 à Lille et Lyon, 11 pour Paris, 13 à Nice et Brest, 17 à Montpellier et 18 la maximale pour Perpignan.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Changer la loi pour réprimer les auteurs d'inceste et de violence sexuelle sur enfants. Isabelle Debray, la présidente de l'association L'Enfant Bleu, avec nous dans un instant.